Quand on est flic le soir de Noël, ce n'est pas forcément un petit moment de paradis. Loin de la beauté en toque des fêtes, de l'esprit de Noël et j'en passe, il y a l'autre réalité, les bagarres de poivrons, les appels pour les maris violents, et parfois même les meurtres. Enfin tout ça, c'est lorsque les choses se passent bien. Et ce soir, ce ne fut pas vraiment le cas. Un appel de la part d'une voisine horrifiée, elle disait avoir entendu des hurlements venant de l'appartement à côté d'elle. Une famille de 3 personnes fêtant Noël. Une petite famille bourgeoise bien sous tout rapport. Un immeuble pendant le confinement, pas vraiment mon rêve de fin de soirée. Mais bon, on enfile nos masques, nos gants et on se rend sur les lieux avec mon collègue. Dès l'arrivée, l'ambiance est pour le moins bizarre, quelque chose cloche dans l'atmosphère. Vous savez ce feeling qui vous dit que vous devriez foutre le camp ou trouver un moyen de mettre ce dossier sur le dos d'un collègue? J'aurais pu, j'aurais dû, mais vu que je suis trop con, j'ai bien entendu pas fait. Et me voilà poussant la porte d'entrée de ce hall d'immeuble du 17e. Cela pue le luxe à tous les étages, la gardienne nous accueille et nous dit que c'est au 5e. Une famille bourgeoise, les Legrand. Des voisins sans la moindre histoire. On arrive au 5e, les portes des voisins sont déjà entrouvertes. Ça regarde furtivement. J'ai l'impression d'être dans un peep show et qu'on me reluque avant de me coller un billet dans le string. Mon collègue lui aussi semble plutôt mal à l'aise. La voisine qui nous a joint par téléphone est sur le pas de sa porte. La véritable commère de l'étage, elle pointe du doigt la porte. J'échange un regard avec mon collègue. Il a déjà la main sur son flingue. J'ai toujours dit que ce mec se pensait dans un film hollywoodien. Mais pour une fois ce soir, je partage presque son sentiment. Je tape à la porte pour les présentations réglementaires. Pas la moindre réponse. Je recommence. Toujours rien. La gardienne nous a filé les clés. Du coup, j'enfonce cette dernière dans la porte et l'on rentre dans l'appartement. Tout comme à l'extérieur, ça pue le luxe sauvage. Rien que le hall d'entrée est plus grand que mon propre appartement. La différence, c'est que dans le mien, il n'y a pas un cadavre. Celui d'une femme avec la gorge tranchée en plein milieu. Inutile d'avoir le moindre espoir pour elle, la flaque de sang immense qui l'entoure annonce la couleur. Elle est morte. Que ce soit pour moi ou mon collègue, le numéro de danse a définitivement changé. Les armes sont sorties et l'on quadrille les pièces désormais. Pas un bruit, pas un signe de vie. Et soudain dans la chambre d'un enfant, une silhouette sur le lit. Mon cerveau a déjà compris, ma raison aussi, mon instinct de flic aussi. Alors pourquoi est-ce que je m'avance vers ce putain de lit? J'en ai pas la moindre idée. Mais dans le faisceau de ma lampe, le gamin est là. Ce que je n'aime pas est qu'il émane de lui son rauque. Ce n'est pas cohérent avec un enfant. On dirait le grognement d'une bête sauvage. Et alors que je ne suis plus qu'à quelques centimètres, le toquin de mon collègue se met à retentir. L'enfant qui semblait jusque-là en pause se retourne littéralement d'un coup. Et là, je comprends. Le visage déformé d'un rictus démoniaque, la bouche pleine de sang, et le visage balafré comme si on l'avait frappé avec une batte. Il me regarde droit dans les yeux. Plus aucun doute, je suis sa proie. Et avant même que je puisse faire ou dire quoi que ce soit, mon collègue ouvre le feu. Et cet abruti le manque, à plusieurs reprises. C'est comme si le gamin anticipait les balles. Il se déplace aussi bien plus vite que prévu. Mon collègue n'a même pas le temps de réagir que ce truc se jette sur lui. Je suis toujours tétanisé. Il m'a oublié pendant quelques secondes, j'entends les hurlements, les bruits. Je finis par reprendre le contrôle de mon corps, mais il est déjà trop tard. Quand je me retourne, mon collègue n'est plus qu'une masse informe en sang sur le sol. Le gamin me regarde un court instant, j'ai presque l'impression qu'il me sourit. Et alors que je m'apprête à tirer, il disparaît dans le couloir. Je réalise, mais beaucoup trop tard, que la porte de l'appartement est toujours ouverte. Quelques secondes plus tard, j'entends les hurlements dans le couloir. Et voilà comment ce soir du 24 décembre commença ce que nous allions dans les années à venir classer comme étant la pandémie à l'origine du déclin de notre propre société, voire même de l'humanité. Un soir de Noël, au beau milieu d'un carnage, les parents étaient des virologues, travaillant dans un laboratoire à l'étranger. Très vite, on me retira l'enquête et les habitants de l'étage qui avaient été en contact avec le gamin et les parents disparurent. Dans les semaines qui suivirent, plus aucune trace. Ce n'est que quelques semaines plus tard, lorsqu'on commençait à avoir vent de ces nombreux cas de rage ou de folie meurtrière en bordure de Paris. Je commençais à comprendre, cela se répandait et plus personne n'arrivait à le contrôler la chose. Ce soir-là, en lisant les rapports d'enquête sur un meurtre dans un hôtel à Disneyland, je revis les yeux du gamin me souriant. Le monde s'écroulait sous mes propres yeux, au sens propre, comme figuré d'ailleurs. La logique voudrait que quand on croise des enfants, rien ne devrait nous glacer le sang. Absolument rien. Un enfant à la base, c'est inoffensif. Enfin, encore une fois, c'est la logique qui raconte ça. Moi, la logique, désormais, je l'emmerde. Je m'en méfie et si je pouvais, je me gênerais pas pour lui cracher à la gueule. Tant je sais que dans le fond, elle se fout de notre gueule, justement, H24. Je suis flic. Et en 20 ans de carrière, ce que j'ai vu de déviant, malsain et pervers, c'était toujours chez des adultes. J'étais dans le lot de ces gens qui se disaient « Jamais un enfant ne fera de telle saloperie ». Puis vint cette enquête, une histoire concernant un marionnettiste dont j'ai fini par oublier le nom, un mec qui créait des automates plus vrais que nature pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde avait cru que son travail était perdu à jamais, et un jour, sans que personne ne comprenne, voilà que cela a fini par remonter à la surface. Un collectionneur tombant sur un ancien modèle, un autre découvrant des carnets de croquis que personne n'aurait jamais dû voir. Et dans la foulée de tout cela, des morts, beaucoup trop, pas de manière propre non, du sale qui fait froid dans le dos, mais qui jusque-là restait encore un peu dans le cadre de mes limites. Et voilà qu'un jour il y a eu ce coup de fil, l'école de ma petite fille. Ils savaient que j'étais flic et visiblement ils avaient voulu me joindre en premier avant les parents. Et d'expérience, je sais que lorsque cela arrive, ce n'est jamais bon signe. La gamine était venue au bureau hier. J'avais bien vu, comme à son habitude, qu'elle fouillait partout. Mon travail l'avait toujours fascinée. Mais bon, tout était sous clé. Je m'étais pas méfié. Mais alors que je faisais le trajet vers l'école, un mauvais pressentiment finissait par me ronger de l'intérieur. Tout ce qui se passait sur Paris en ce moment me dépassait. Les meurtres sur Montmartre, ce cinglé dans le métro et ce chirurgien qui se faisait fumer par les collègues il y a quelques jours. Et ce dossier du marionnettiste, j'en avais marre de cette ambiance. Et en arrivant devant l'école, je compris. Quelque chose allait de travers, les ambulances, la police, les parents qu'on ne laissait pas rentrer. Un flic m'attendait devant la porte. Il me fit signe de venir. Son visage était absolument blême. On m'amena vers la directrice de l'école, une femme d'une cinquantaine d'années. Le portrait type de celle qui semble avoir tout vu, tout vécu. Enfin du moins jusqu'à maintenant. Je lui demandais où était Jennifer. Elle n'arriva pas à dire un mot. Elle était blême comme le flic devant la porte. Elle se contenta de me faire signe de la suivre. Et c'est en arrivant dans le couloir principal. Je compris la raison de tout ce merdier. Les ambulanciers sortaient des corps de la salle de cours. Des dizaines de petits corps mis à même le sol sous des draps blancs dans le couloir. C'était des gamins, mon cœur atteignait la vitesse limite possible. Je me voyais pas annoncer la mort de Jennifer à ses parents. Mais d'une certaine manière, cela aurait été moins pire que la vérité. En entrant dans la salle, je la vis. Elle était assise sur une chaise encadrée par des policiers immenses. C'est en faisant un pas vers elle que je fus tétanisé en comprenant. Son visage plein de sang, sa bouche pleine de sang, ses yeux révulsés. C'était elle qui avait massacré sa classe entière. Dans un coin de la pièce, le professeur Blandin était en train d'être soigné à même le sol, enfin soigné. Elle lui avait arraché la gorge à coups de dents. Elle me regarda en souriant. Pour la première fois de ma vie, j'eus peur. Elle me souriait, elle lâcha cette phrase. « Tu en as mis du temps. » Qui était ce monstre? Elle voulut se lever et venir vers moi. Mais les deux flics l'en empêchèrent. Ce qui me déstabilisait le plus, c'était de voir ces colosses la main sur le flingue. Tout ça face à une gamine de 10 ans. Je contrôlais plus rien et c'est ce qui me fit le plus peur. Un autre flic arriva à côté de moi. Ils allaient l'emmener. Je ne la reverrai plus, c'était certain. Et d'ailleurs, vu ce qui s'était passé, est-ce que c'était un mal? Mais c'est alors que je tentais de me raccrocher à ce que je pouvais que je vis son sac à dos au pied de sa table. Il baignait dans le sang et d'autres matières dégueulasses. Mais un détail m'attira l'œil. Il y avait quelque chose qui en sortait. Un personnage de bois. Je me jetais sur le sac. Et d'un coup, je le relâchais comme si son contenu m'avait littéralement brûlé les mains. Le pantin était là. Comment est-ce qu'elle avait fait pour l'avoir? Il était dans les pièces à conviction du bureau, tout vacillait d'un coup autour de moi. C'était comme si cette saloperie me transperçait l'âme et le cœur d'un coup. J'avais provoqué la fin de ma propre famille. Impossible de me retenir. Voilà que je me mis à vomir mes tripes en plein milieu de la salle de classe. Et c'est à ce moment-là que je l'entendis rire derrière moi. Elle me regardait innocente. Tout cela pendant un court instant. J'avais presque envie de croire qu'elle avait repris enfin le dessus. Elle me regarda tout d'un coup en disant cette phrase. Pas de place pour les fouineurs, Capitaine Valenti. Et sur le coup, même les flics présents eurent un moment de flottement en l'entendant. Ce n'était pas la voix d'une enfant qui parlait. C'était autre chose. Et profitant de leur inattention, elle désarma un des flics, lui volant son arme. Tout cela pour se tirer une balle en pleine tête sous mes yeux. C'était il y a 6 mois. Et depuis, son sourire, sa voix, et l'écho de ce coup de feu, plus rien ne me quitte. Chaque soir, elle est là. Qu'il neige, qu'il vente, que le bruit de la ville soit assourdissant et donne envie de fuir. Rien n'y fait, elle est là, assise sur le capot de sa voiture à regarder l'horizon. Le tout en silence. Elle profite de je ne sais quoi au milieu de ce capharnaüm. On peut presque dire que la tranquillité qui se dégage d'elle a quelque chose de pour le moins réconfortant. Ou déconcertant en fait. Pendant quelques jours, j'ai pris le temps de la regarder de loin. Elle aussi. On se tolérait. C'était un peu dans le fond comme si on se demandait qui envahissait le terrain de jeu de l'autre. On aurait voulu marquer son territoire d'une certaine manière. Mais je pense que très vite, l'un comme l'autre, on a compris qu'il n'y en avait plus au fond. On était en quelque sorte sur une zone de démarcation, à mi-chemin entre l'ombre et la lumière, à regarder en spectateur la pièce de théâtre qui se passait devant nos yeux. Les gens ne faisaient plus attention à elle, ils m'oubliaient aussi. Et d'une certaine manière, ça ne me dérangeait pas une seule seconde. Il y a dans l'anonymat une certaine forme de libération. Je vais partout, je me balade, je me faufile, on me voit, on m'oublie, on me tolère. Un peu comme elle, d'une certaine manière. Il paraît que la plupart du temps, ce sont les humains qui nous choisissent. Je me suis toujours dit que c'est une connerie dans le fond. On se choisit. Sur un regard, une attitude, un truc indéfinissable. Et cela fait plusieurs jours l'un et l'autre qu'on tourne autour du pot. Et ce soir-là, en arrivant à côté d'elle, je vis qu'elle aussi n'attendait que cela. Quelqu'un avec qui partager l'instant, voire un peu plus. Et d'un coup, l'addition de deux solitudes finissait par former un tout. C'est con la vie. Comme la rencontre entre une femme seule et un chat, un soir sous la pluie, le tout en bordure du périphérique. Chaque jour, c'est la même chose. Tu me regardes, mais tu ne me vois pas. Tu la vois, elle, cette chose. Ton regard la transperce, il se focalise sur ce qu'elle t'offre. De l'émotion à la découpe. C'est un peu ce que je suis pour toi, au final. un morceau de ceci avec une grosse bouchée de tes pensées les plus secrètes. Je suis là pour donner vie à tes fantasmes. Dans l'immensité du web, personne ne t'entendra crier. Et ce, quelle que soit la nature de ton cri ou son point d'origine. Il n'y a rien en moi qui ne t'attire pas l'œil en surface. Mais une fois qu'il faut mettre les mains sous le capot, il n'y a plus personne. Tu n'as jamais été là, en fait. Est-ce que je t'en veux? Non, dans le fond, même pas. Tu es comme les autres. Un instant, un visage de passage, et absolument rien d'autre. Tu donnes la direction, je te donne du plaisir, et puis basta. Je voudrais bien qu'une fois tu t'arrêtes, tu regardes ailleurs. Ailleurs que sur les parties les plus visibles de ma personne. Je ne demande pas forcément autre chose. Et comme d'habitude, j'espère toujours pour rien. J'attends encore et encore. C'est un manège sans fin, tes fantasmes contre les miens. La nature des uns ne se mariant pas forcément avec celle des autres. Mais comme on dit, on fait avec. On creuse du coup chaque jour un peu plus et l'idée même d'une certaine forme d'équilibre finit encore et toujours par s'éloigner. Et voilà qu'au final, je suis là, bancal, émotionnellement, vide sur plein d'autres points. Je me dis que d'une certaine manière, tu l'es toi aussi. Mais pour moi, c'est le cœur, pour toi, c'est l'âme. Je ne sais pas pourquoi je rêve de trouver la formule miracle pour conjurer nos deux solitudes et en faire un tout. Mais la vérité, c'est qu'une partie de moi fantasme pendant que le reste de toi s'en fout totalement. Et le matin, en te regardant partir en laissant l'argent sur la table basse, je me dis que tout cela est aussi vain que sans fin. Du moins jusqu'au prochain SMS, signalant le départ de ta femme pour un séminaire. Cela vous arrive de vous mettre à imaginer la vie des gens quand vous êtes sur le quai d'un métro en attendant que votre train ou RER arrive? Moi, tout le temps en fait. Et là, ce soir, alors que je me gèle les miches, je commence à tourner en rond au niveau de ce petit jeu. Cela fait 15 minutes que l'annonce est tombée. Le train n'arrivera que dans 20 minutes. Il reste encore 5 minutes à tuer, et pour corser le tout, il commence à neiger. Le genre de choses qui me rend totalement antipathique d'habitude. Un peu comme mon voisin sous ce porche qui visiblement est le seul à croire que personne n'a vu qu'il regarde Pornhub. Et ce couple qui s'engueule au loin à cause d'un dîner chez la belle-mère. Non, là, comme je vous disais, même si je balaye le plus loin possible, l'éventail des envies d'évasion est faible. Et d'un coup, au milieu de l'océan de vide de ce quai, voilà que sa silhouette se dessine. Des cheveux bleus, une silhouette de personnage de BD, et un sac avec un chat noir. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle attire le regard. Elle semble se foutre du froid du reste du monde et de tout ce qui peut arriver autour d'elle. Je détourne le regard un court instant en me disant que si je me fais gauler, je vais encore passer pour un de ces pervers, une vieille habitude. Mais voilà, il faut bien que je ne mette, elle m'intrigue. Est-ce que pour autant je vais aller la voir en disant « bonsoir madame » ou une banalité de comédie romantique? Non, je me dis que l'espace d'un instant, elle embellit juste l'ennui de cette scénographie par sa simple présence et c'est déjà pas si mal. Une nouvelle annonce, le train va arriver un tout petit peu en avance. Est-ce que je vais aller la voir? Je voudrais bien, mais encore une fois, je me dis, à quoi bon? Elle ne me verra pas comme les autres. Pas que je sois vraiment moche à en faire fuir la foule, non. Juste que je suis mort il y a un an. Et comme chaque soir, je reviens juste sur le lieu où j'ai tiré ma révérence pour voir ce que la vie a été après moi. Et ce soir, je sais pas pourquoi, mais chez une fille, chez cette fille, un truc me fait dire que j'aimerais qu'elle me voie. Et quand je la vois s'approcher du quai, quelque chose en moi se réveille par contre. Son air absent, son refus de regarder autour d'elle, ou ailleurs que droit devant elle. J'ai compris, tout de suite, et alors que le train s'approche du quai, je fais ce truc idiot, je lui hurle de bouger du quai. Elle a un court instant sous la neige et le train qui lui passe à côté, nos regards se croisent. Et je pense que c'est dans ce genre d'instant qu'on peut se demander si la vie n'est pas une garce assez comique au final. Un nom sur un quai de gare à attendre que quelqu'un me voie est la seule capable de le faire. Aura été une personne qui, comme moi, voulait en finir. Et alors que je cherche à m'avancer, voilà que je la regarde, prise en sandwich dans les gens qui sortent du train et ceux qui y rentrent. Quelques secondes qui durent une éternité, un moment où pour une fois je me sens moins seul. Et un peu vivant, paradoxe. Jusqu'à ce que la porte du train se referme dans un sifflement et que nos regards se croisent une dernière fois sur le quai. Elle en partance, moi toujours à quai. Au moins, ce soir je pourrais me dire en attendant le prochain train, que j'ai sauvé une vie. C'est déjà pas si mal, non ? J'imagine qu'en cliquant sur le bouton play, vous avez accepté de votre plein gré de vous aventurer dans l'imaginaire du narrateur de ce podcast. Un lieu où il ne faudra pas apporter d'importance aux hurlements au loin, ou à la teneur plutôt rougeâtre du sol, voire même l'ambiance pour le moins particulière. Mais j'imagine que tout ça, vous le savez déjà. Vous êtes ici pour une seule et bonne raison. Chercher quelque chose de nouveau dans votre vie. Une vision de l'horreur qui sera peut-être en adéquation avec vos envies ou vos fantasmes. Alors dans ce cas, j'ai envie de vous dire, bienvenue dans l'ombre des légendes. Le jour où j'ai reçu le coup de téléphone de la police m'annonçant la mort de ma fille, je pense que comme n'importe quel parent, un truc s'est réellement brisé en moi. Ou bien en fait, tout s'est brisé en moi d'ailleurs. J'étais d'un naturel jovial pourtant, un bon vivant, un homme lambda qui ne demandait qu'à vivre sa vie tranquillement, le tout avec sa famille. Je n'avais rien d'un monstre. Et aujourd'hui pourtant, alors que je me regarde dans la glace, en nettoyant les traces de sang sur mon visage, je ne vois justement que cela, un monstre. Peu après sa mort, j'ai lutté pourtant pour garder un brin d'humanité en moi, un brin d'espoir. Mais la vérité est que dans le fond, tout était déjà foutu depuis le début, depuis ce putain de coup de fil. J'ai beau faire en sorte de tenter de l'oublier dans l'alcool, dans les médicaments et tout ce que je peux. La vérité c'est que ça n'a jamais réussi, ces mots ne cessent de revenir, ces images aussi. Le moment de l'identification à la morgue, ce corps démoli et ce deuxième coup de poignard dans le cœur quand on m'annonça que le principal suspect venait d'être relâché sur un vice de procédure. Et là, à ce moment, il y a deux options qui se mettent en place. Croire en la justice et se dire qu'il y a peut-être un doute sur la culpabilité de cet homme au final. Et le second, c'est l'instinct du père. Ce moment où, au fond de soi, on sait qu'il est coupable et que cette petite voix vous dit d'aller faire en sorte d'en finir, une fois pour toutes. Et c'est à ce moment précis que la bascule s'opère. Ce moment où, quand on se regarde dans le miroir, l'image qu'il nous renvoie n'est plus celle de l'innocence. Vous voulez qu'il paye, vous voulez lui faire subir exactement la même forme de violence qu'il lui a infligée. Vous luttez un court instant pour vous dire que non, vous n'êtes pas comme lui. Et soudain, plus rien. Cette petite voix vous dit juste d'arrêter de vous mentir. Et au fond de vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est bêtement et naïvement de lui dire oui. Timide et inaudible, en forme d'aveu de faiblesse, vous offrez les clés de votre esprit à la colère, ainsi que la vengeance. Et là, alors que vous essuyez votre visage, et vous vous retournez, vous le voyez attaché à la chaise. Il est en sang, un magma de chair à l'agonie, mais toujours vivant pourtant. Cela fait des heures que vous le travaillez lentement, des heures que vous lui refusez la seule et unique chose qu'il réclame, celle de mourir. Et alors que vous reprenez le marteau posé sur le bord de la chaise à côté de lui, vous réalisez que la vengeance a fait de vous un monstre, et surtout de lui une victime. Un retournement de situation pour le moins ironique. Dans les histoires qui s'échangent sous le manteau, il en est une que j'ai toujours trouvée propice à un potentiel départ de film d'horreur. Pas forcément gore, mais le genre de ceux qui peuvent vous retourner un peu le cerveau, tout en continuant d'aller chercher vers une horreur différente de celle qu'on en a l'habitude de bouffer. Les fondations de cette petite histoire laissent une porte ouverte sur tant de styles possibles pour continuer l'histoire que cela donne le tournis. Je parle ici des potentiels monstres qui se cachent dans des statues ou objets inanimés. L'histoire du jour repose sur une base simple. Imaginez que vous êtes un père de famille au bord du burn-out, à cause de votre vie familiale ou professionnelle, que votre morale et votre physique sont totalement à zéro, et que d'un coup vous décidiez de faire un break avec votre femme, de prendre un peu de temps pour vous, rien qu'une soirée, histoire de remettre les un petit peu à niveau. Alors comme des bons parents, vous faites appel à une babysitter pour ne pas avoir de remords. J'ai envie de dire jusque-là, tout est normal. Cette dernière vous inspire confiance, les enfants l'apprécient, il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. Et vous et votre femme, vous prenez la route l'esprit tranquille. Et là, pour l'instant, j'ai envie de dire, tout se passe à merveille. Tard dans la soirée, vous prévenez la babysitter que vous allez être un peu en retard et lui demandez si elle peut rester plus longtemps. Elle accepte et elle vous demande si elle peut utiliser votre salle de cinéma personnelle pour tuer le temps. Vous n'y voyez pas d'inconvénient. La seule demande bizarre de la jeune fille était de savoir si la statue à l'extérieur de la fenêtre était un reste de la décoration d'Halloween et si elle pouvait la rentrer ou la cacher pour la mettre dans un placard, car elle la mettait terriblement mal à l'aise. Et c'est là que le scénario déraille un peu. Vous n'avez pas de statue dans le jardin, vous n'avez pas fêté Halloween non plus. Vous lui demandez ce dont il s'agit. Elle répond à la statue d'une sorte de démon avec un visage pour le moins malsain. Un instant de vide vous traverse l'esprit. Elle est en train de vous faire une blague de mauvais goût, c'est ce que vous vous dites. Mais en insistant, vous comprenez que son malaise est réel et surtout palpable, vu qu'il devient le vôtre. La dernière chose que vous lui direz en étant tiraillé par ce sentiment de danger imminent, c'est de prendre les enfants et d'aller immédiatement chez la voisine. Ce seront les dernières paroles que vous lui direz qui seront consignées dans le rapport d'enquête. Vous tentez de rentrer au plus vite en appelant la police pour signaler une possible effraction. Quand vous arrivez chez vous, il est malheureusement déjà trop tard. Vous découvrez deux ambulances emmenant les corps de la babysitter et de vos deux enfants. L'enquête est au point mort, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de traces d'effraction, de rien du tout en fait. Mais surtout, personne ne retrouva jamais la soi-disant statue dans le jardin. Quand la police arriva chez la famille Mitchell dans la banlieue de Washington ce soir de décembre, la logique aurait voulu que ça ne soit que pour un appel de routine. Un voisin avait mentionné des hurlements, sûrement une dispute de couple. Le genre de choses que les officiers pensaient pouvoir régler rapidement. Cela du moins c'était le scénario parfait. Celui qui se déroula sous leurs yeux était tout autre. Dès l'arrivée, et en posant un pied devant la maison, l'officier Sanders et son collègue Vallès eurent la désagréable surprise de voir un corps passer à travers la fenêtre du dernier étage de la maison. Tout ça avant de s'écraser sur le sol devant eux. C'était la fille des Mitchell. Sarah. L'impact lui fut fatal, mais ce qui traumatisa les policiers était le rictus déformant son visage, comme si elle avait vu le diable et avait préféré mourir que de lui faire face. Quelques secondes plus tard, arme à la main, les deux officiers entrèrent dans la maison. Ce qu'ils y trouvèrent n'avait rien du décor familial de rêve. Tout était dans un état atroce, comme si une bête sauvage avait commencé un carnage. Il ne fallut pas bien longtemps aux deux officiers pour que ce sentiment se confirme. Au pied des escaliers menant à l'étage, le corps démembré de Margaret Mitchell était visible, du sol au plafond. Saunders finit par trébucher sur un morceau de corps et ne put réprimer une immense envie de vomir en voyant les morceaux de cervelle sur son uniforme. Valdez, lui, s'était déjà engagé dans l'escalier et en haut de ce dernier, il découvrit la partie inférieure du corps d'un homme tranché en deux de manière nette. Comment ? Aucune idée. La seule chose était ce sang mélangé à l'intérieur de l'homme qui tapissait les murs et rendait irrespirable l'atmosphère autour de lui. Quelques mètres plus loin, Valdez vit le reste du corps. C'était le père. Il avait sans doute tenté de ramper vers la chambre de sa fille, celle qui avait préféré sauter par la fenêtre que d'affronter le monstre responsable de ses atrocités. Et c'est alors qu'il pensait avoir tout vu, que la porte du fond du couloir s'ouvrit lentement devant Valdez, laissant apparaître un jeune enfant baignant dans son propre sang. La question qui traversa l'esprit du policier, est-ce qu'il avait vu les atrocités? Sûrement. Et comme un bon policier qu'il était, Valdez s'approcha de l'enfant dans l'espoir de l'emmener loin de ce merdier. Mais plus il approchait justement, plus quelque chose le dérangeait. L'atmosphère, le côté stoïque de l'enfant, son regard sur lui, et c'est quand il arriva à moins d'un mètre qu'il comprit son erreur en croisant le regard de ce dernier, un regard de prédateur. Ce dernier lui sourit pour laisser apparaître une dentition pour le moins inhumaine. Dans son témoignage, Saunders, qui était encore au rez-de-chaussée, indiquait que tout ce qu'il avait entendu en premier lieu, c'était les hurlements de son collègue suivis d'une dizaine de coups de feu, et que lorsqu'il était arrivé, il avait retrouvé l'enfant les mains dans le corps de son collègue, enfin, dans le cadavre de son collègue, ou plutôt des morceaux. Saunders jura que l'enfant l'avait alors attaqué, et qu'il avait dû faire usage de son arme pour se défendre, finissant par le tuer. La balistique indiqua que Saunders avait bien fait plus que tuer l'enfant. Il avait vidé deux chargeurs dans ce dernier. Quelques semaines avant le procès, Saunders quitta la police et tenta de se suicider. Une fois sans y arriver, et la deuxième fut la bonne. Il ne laissa qu'une seule vidéo en forme d'adieu, celle racontant beaucoup plus en détail ce qui s'était vraiment passé ce soir-là, loin du premier rapport de police qui n'indiquait que quelques détails, lui. Pour lui, l'enfant qu'il avait vu n'était pas un. C'était un monstre se cachant sous l'apparence de ce dernier. Et le plus effrayant dans l'histoire est que quelques années plus tard, il fut découvert au travers d'un cold case sur cette affaire, que la famille Mitchell, soi-disant bien sous ton rapport, étaient en fait des rabatteurs pour des organisations religieuses plus ou moins louches, des fournisseurs de viande fraîche pour des activités dont on ne veut même pas entendre parler, et que le fils qu'on croyait être le leur était un enfant enlevé. Au final, le plus ironique là-dedans est que visiblement le karma a fini par se retourner contre eux en mettant sur leur chemin ce gamin. On ne retrouva jamais la trace de son enlèvement ni de sa famille. Aujourd'hui encore, c'est une légende urbaine qui passionne des dizaines de chasseurs du net. La question qui reste sans réponse est la suivante. Et si pour une fois les Mitchell avaient tout simplement enlevé sans le savoir le fils du diable? Dans l'ombre des légendes, c'est la zone où on cache nos peurs, nos désirs et tout ce que l'on garde loin de la vie courante. Des choses qui un jour finissent par s'échapper de cette prison, tout cela pour revenir gratter à la porte de leurs anciens propriétaires. On n'échappe jamais vraiment à ces peurs, un peu comme aujourd'hui. Personne ne m'a jamais cru. Tout le monde reste encore persuadé aujourd'hui que je suis le meurtrier de ma fille. Un veuf qui tue sa gamine après la mort de sa femme pendant l'accouchement. C'est un point de départ rêvé et parfait pour toutes les commères du quartier. Elles s'en sont données à cœur joie à ces garces. Est-ce que je peux leur en vouloir? J'avoue, je sais pas. J'ai pourtant tenté de dire la vérité. Personne ne m'a cru. Les flics, ma famille, ils m'ont fait passer pour un fou. Comment croire cette histoire? J'entends encore ces bruits le soir de l'enlèvement, ces sons étranges provenant de la chambre de ma fille. Ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est le souvenir de ce changement. Le tout en approchant de la chambre, ces sons que je ne distinguais pas encore. D'un coup, ils étaient devenus la berceuse que ma femme chantait, celle qu'elle avait écrite pour notre fille avant de mourir. Et là, en écoutant cette mélodie semblant revenir d'outre-tombe, mon sang finit par se glacer. Mais ce n'était rien en comparaison de la vision que j'eus en ouvrant la porte de la chambre de ma fille. Ce monstre qui chantait avec la voix de ma femme. Est-ce que je rêvais? Est-ce que je devenais fou? J'en sais rien. Je ne le suis jamais. La chose disparut avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Avec elle dans ses bras tentaculaires, les derniers reliquats de mon humanité. C'est-à-dire ma fille. C'était il y a un an. On ne retrouva jamais son corps. Pas de sang, pas de preuve, rien. Juste un infini océan de possibilités. Et surtout une suspicion tenace qui flottait encore aujourd'hui autour de moi. Mais avec le temps, j'avoue, j'avais appris à vivre avec. Ce qui me hante le plus, c'est cette chanson que j'entends encore aujourd'hui, chaque soir. J'ai l'image de ce monstre qui ne cesse de revenir entrecoupé du sourire de ma femme. Et à chaque fois que je ferme les yeux, je prie pour les rejoindre où qu'elles soient, toutes les deux. Mais chaque matin, je me réveille avec la même réalité en face de moi, celle de la solitude. « Cela commence toujours par une sensation de bonheur et d'épaisement intense. Il pose le casque sur votre tête. La connexion avec le cerveau se fait instantanément. Et d'un coup, on se retrouve en plein dans ses propres rêves ou ses désirs. Plus de limites. Ce programme qui ouvre les portes de notre inconscient. Il n'y a qu'un seul voyageur et conducteur à la fois. Nous, si l'on met le casque, on accepte de tout voir, de tout vivre, de surtout tout ressentir, de revoir les gens qu'on a perdus, de vivre ces fantasmes que l'on n'osait jamais accomplir. Enfin ça, c'est la partie la plus propre de l'iceberg. Et puis soudain, il y a l'autre réalité, celle dont on ne parle pas assez, ce dont le cerveau a cramé, ou du moins fusionné avec le casque. Ces gens qu'on ne pourra plus jamais débrancher. Un marché noir a vu le jour autour de cela. Les plus fous acceptant de prendre le risque de se brancher sur le cauchemar d'un de ces malheureux. C'est la nouvelle drogue à la mode. Le sport de l'extrême. Se brancher sur ces saloperies, c'est accepter de vivre la déchéance, la peur, comme jamais, ou tout un tas d'autres formes de déviance atroce. La peur du risque. L'envie de se dépasser dans le cauchemar. Voilà pourquoi je me suis branché sur le casque de ce type, un ex-taulard, un homme ayant tué le meurtrier de sa femme, bloqué en boucle dans la soirée où il découvrit le corps. Une autre vision de l'enfer en quelque sorte, mais c'était justement ce qui me plaisait. Le tout pour mes études de criminologie, c'était parfait. Samantha Jones, la future profiler de choc. J'avais tout planifié, lu le dossier de fond en comble. En fait, c'était un voyage sans risque pour mon mémoire. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais, ce que je pensais. Et d'un coup, tout a vrillé. Ce que je n'avais pas pris en compte était qu'après 6 mois en boucle sur ce cauchemar, l'esprit de ce type avait fini par littéralement détraquer la vérité, ses souvenirs réels se mélangeant avec le fantasme et donnant naissance à quelque chose n'ayant plus rien à voir avec le rapport de police. Et là, dans mon cerveau, une petite voix retentit. Samantha, qu'est-ce que tu as foutu? Impossible de se débrancher du casque avant la fin de l'heure du voyage. Le faire, c'était s'exposer au risque de rester bloqué à jamais avec l'autre. 15 minutes plus tard, l'homme repassait en accéléré le meurtre de sa femme. Un coup, elle était morte. Un coup, il l'a sauvée en tuant son bourreau. Un coup, c'était lui la victime, et elle le bourreau. 25 minutes plus tard, quelque chose clochait. La femme tentait de communiquer avec moi. Comment savait-elle que j'étais là? La chose qui me fit paniquer fut quand elle me regarda droit dans les yeux, et que la scène se figea. Seule sa voix se mit à retentir, et je l'entendis dire « Il vient pour toi ». 35 minutes plus tard, je suis à l'extérieur de la maison. Les bruits du meurtre retentissent, encore et encore, toujours plus fort. La pluie se déchaîne autour de moi. Le décor, tout est désertique, les maisons apparaissent et disparaissent par intermittence. Il n'y a que cette maison et la silhouette de Steve qui me regarde à la fenêtre du premier étage qui reste. Son regard m'effraie. 45 minutes. J'ai voulu fuir. Je suis revenu au point d'évacuation. Il me reste 15 minutes à tenir. Cela devrait aller, mais d'un coup, une main se pose sur mon épaule. Je me retourne en hurlant. La femme est là. Elle tente de me parler. Mais c'est là que je vois que sa gorge tranchée l'empêche de dire quoi que ce soit. Elle pointe quelqu'un dans mon dos. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit à mon tour, je ressens une vive douleur dans le bas des reins. Je suis figé sur place. Et soudain, je sens cette présence dans mon dos. Il y a quelqu'un derrière moi qui tient un couteau planté dans mon corps. 55 minutes, je rouvre les yeux. La douleur est atroce. Je suis allongé sur le lit de la chambre. L'endroit même où le meurtre s'est déroulé beaucoup trop de fois sous mes yeux. Et là, soudain, devant moi, l'homme. Il apparaît, il sort de l'ombre. Ce n'est pas le tueur du rapport, c'est bien le mari. Son visage, il alterne sans cesse entre celui du tueur et le sien. Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là, il s'assoit à côté de moi et il fait lentement glisser le couteau le long de ma gorge. Son visage est totalement impassible. Pas un bruit, pas une émotion. Il m'analyse. Tout cela avant de sortir une simple phrase. « Pourquoi est-ce que tu m'as quitté ?» Pourquoi ? Et alors qu'il dit cela, sa main se met à serrer bien plus fort que de raison son couteau. Il le fait toujours bouger sur ma gorge, sur mon visage. Et alors qu'il me regarde dans les yeux avec un air de plus en plus malsain, je sens la lame qui m'entaille la joue. Tu n'aurais jamais dû me quitter, sale garce. Et alors qu'il s'apprête à me frapper en plein cœur, une lumière m'englobe. C'est la barre des 60 minutes sauvée par le gong. Je rouvre les yeux, un technicien m'enlève le casque. Je m'effondre en pleurs sur le sol. Et alors que je passe la main sur mon visage, je remarque qu'elle est pleine de sang. Ma joue est balafrée. Une infirmière vient me soigner. Et mon corps, dans un dernier élan pour me protéger, tient le rideau. Je m'évanouis dans ses bras. Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Dehors, le soleil est là, et j'entends la vie au loin. Je repense à cette séquence, tout ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je suis allé me foutre dans ce merdier? Samantha Jones, toujours à foncer et réfléchir ensuite. Et alors que je tente d'émerger du brouillard dû au médoc, une infirmière entre. Elle vient pour vérifier mon bandage. Et alors qu'elle s'approche de moi, c'est là que je croise son regard. Et soudain, mon cœur se fige, comme le reste de mon corps d'ailleurs. C'est la femme du tueur. Elle me pose la main sur la bouche pour que je ne dise rien, et se rapproche de mon oreille. Ne faites pas de bruit, sinon il va venir pour nous. Et là, je comprends que rien n'est fini. Et cela à jamais. Et voilà, c'est la fin de l'épisode du jour, alors j'ai envie de faire un petit message rapide. Si vous aimez le projet et que vous avez envie de le soutenir, plusieurs options s'offrent à vous. En parler, le partager ou le soutenir via le Tipeee mis en place. Dans les deux cas, que ce soit pour le soutenir d'une manière ou d'une autre, tous les liens pour vous y retrouver sont dans la description de chaque épisode. Impossible de les manquer. Et en attendant le prochain épisode, justement, n'hésitez pas à rattraper ceux que vous n'avez pas encore entendus, voire même à vous refaire une écoute de tous les épisodes. J'ai envie de dire, soyons fous. En attendant, on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires plus ou moins sombres.